Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Georges Cormes, bonjour.
Bonjour.
Nous vous parlons aujourd'hui en direct de Beyrouth. Les auditeurs de France Culture vous connaissent bien. Vous êtes économiste et historien. Vous êtes l'auteur du Proche-Orient éclaté, dont la dernière édition chez Folio date de 2007. Auparavant, vous aviez publié un livre sur le Liban contemporain en 2005. Et si je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour que nous parlions ensemble de l'ouvrage que vous venez de publier à la découverte, L'Europe et le mythe de l'Occident. Parce que dans ce livre, vous travaillez en historien sur la création d'un mythe, celui de l'unité de l'Occident. Alors, pourriez-vous nous indiquer à quelle occasion vous avez résolu de travailler sur la fracture imaginaire de l'Orient et de l'Occident? Et cette fracture vous a amené à, justement à retravailler cette question à travers votre dernier ouvrage. Alors, au fond, peut-être ma question est la suivante. D'où écrivez-vous?
Alors, écoutez, quand je fouille dans ma mémoire, j'ai toujours un sentiment de malaise qui monte de mon enfance et de mes années de collège chez les pères jésuites, ici, où la plupart des professeurs étaient français, il y avait aussi beaucoup d'élèves français, et puis j'entendais tout le temps cette distinction entre le « eux » et le « nous ». Nous, les orientaux, eux, les occidentaux. Et je n'aimais pas beaucoup ça, parce que moi, je trouvais tous mes petits copains, qu'ils soient occidentaux, orientaux, sympathiques ou antipathiques, sur bien d'autres critères que leur origine géographique. Et puis cela s'est développé plus tard, quand je suis venu faire mes études à Paris. Je me suis aperçu qu'on me regardait toujours quelque part comme un personnage étrange. J'étais un oriental, j'étais libanais. La question fusait tout de suite, est-ce que j'étais chrétien ou musulman? Et ça m'énervait beaucoup, ça continue de m'énerver. Bon, puis c'était en plein contexte de la guerre d'Algérie. Il y avait les méchants arabes et les fellahs et puis les occidentaux, les français. Tout ça m'a beaucoup embêté. Et dans mes études académiques aussi, je voyais tout le temps ces grandes divisions anthropologiques où on classe les êtres humains comme on classe des insectes, ce que je n'aime pas du tout. Et enfin, on a eu évidemment ce que moi j'ai appelé la vision binaire du monde dans cet ouvrage qui s'appelle « Orient-Occident, la fracture imaginaire », qui est monté avec le livre de Huntington, « Guerre des civilisations » en 93-94, son ouvrage, et puis évidemment le 11 septembre. Et c'est sûrement le 11 septembre qui m'a amené à commencer à rechercher un peu en historien et en historien de la pensée historique. Comment est-ce qu'on est arrivé à transformer des notions d'orientation géographique et astronomique, là où le soleil se lève, le levant, et là où le soleil se couche, l'Occident, comment c'est devenu ce que j'ai appelé des méga-identités massives, auxquelles les gens s'identifient de façon tout à fait mythique. Et c'est pour ça que là, j'ai carrément employé dans le titre le mot « mythe de l'Occident », l'origine étant évidemment européenne, mais je montre bien les conflits à l'intérieur de l'Europe sur cette notion d'Occident elle-même pendant tout le 19e siècle. Et puis j'ai été recherché, alors beaucoup plus systématiquement que dans l'ouvrage que j'ai cité précédemment, où, comment, à quelle occasion ce mythe s'est construit, quelle fonction il a joué, quel sens très différent il a pu avoir dans l'histoire de l'Europe. Quels sont ces moments fondateurs, etc. Toutes les questions qui se posent aussi. Et comment fonctionnent des mythes postmodernes? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mythe qui remplit tout l'espace de la réflexion. C'est un mythe autour duquel s'organisent toutes les sciences humaines, Occident et puis le non-Occident. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours, que j'ai toujours trouvé quelque part monstrueux, hein. Alors c'est vrai que les sociétés ont besoin de mythes pour vivre, mais enfin je crois qu'on peut se faire des mythes plus sympathiques que ce mythe
que
identitaire extrêmement agressif, qu'on se dise un oriental pur et dur, ou qu'on se dise un occidental, qu'on se dise un judéo-chrétien, ou qu'on se dise un arabo-musulman. C'est cette vision binaire du monde contre laquelle je me bats depuis plusieurs années déjà.
Alors justement, que pensez-vous de la position de Philippe Nemo dans Qu'est-ce que l'Occident, sur l'Occident ?
Oui, mais Philippe Nemo, je l'ai cité. J'ai pris un long extrait de son texte, parce que c'est sûrement celui qui a le mieux fixé la dogmatique la plus rigide du mythe de l'Occident, et qui plus est dans toutes ses contradictions. Parce que justement, le passage que je cite, ces critères de l'occidentalité sont, si vous voulez, incohérents. C'est incohérent dans le temps, incohérent dans l'espace. On saute de la Grèce ancienne à l'apparition de Moïse, au droit romain. Enfin, c'est une espèce de salade tout à fait invraisemblable. Et puis ensuite, il a un long développement dans lequel il dit « Surtout, il ne faut pas penser que l'Occident doit quoi que ce soit aux autres civilisations, et notamment à l'islam. »
Bon, alors, qu'est-ce que vous montrez ? C'est que précisément, les civilisations sont toujours faites d'échanges.
Exactement. Quand il y a une grande civilisation, elle se bâtit toujours sur des acculturations diverses, sur des emprunts qu'elle fait à d'autres civilisations. D'ailleurs, la civilisation islamique, au temps de sa splendeur, qui a été une très grande civilisation, s'est bâtie par énormément d'emprunts qu'elle a fait à la civilisation iranienne, à la civilisation indienne, à la civilisation byzantine et à la philosophie grecque ancienne, à la civilisation syriaque. C'est pareil pour ce qu'on peut appeler la civilisation européenne.
Oui, oui. Alors, je voulais vous demander si, à la lumière des analyses que vous produisez dans votre livre, vous pourriez nous camper une description de ce qui se passe dans l'Union européenne aujourd'hui, et si nous allons vers une Europe libérée de ses mythes et de ses chaînes intellectuelles ?
Il y a plusieurs Europes. Hein. Mm-hmm. J'avais envie d'intituler l'ouvrage « Les Europes et le mythe de l'Occident ». Cette idée qu'il y a une Europe unie aussi,
oui,
elle est quelque
sûr.
Part un peu exaspérante et mythologique. Alors, si je ne parle pas des clivages qui sont dus aux différentes langues et aux différentes cultures européennes, il n'y a pas de culture européenne unifiée, sinon dans la société de consommation. Mais la société de consommation est justement une culture négative, hein. C'est une culture qui ne produit pas de culture, c'est une culture qui déculture. Donc ici, je n'en parlerai pas, mais je parlerai plutôt, si vous voulez, des différentes Europes au sens la couche des décideurs et des élites politiques que je caractérise comme étant autistes, c'est-à-dire étant tout à fait coupés des réalités profondes de l'Europe qui se situent ailleurs, qui se situent dans les différents groupes sociaux avec leurs problèmes, que ce soit les professions libérales, que ce soit les médecins, que ce soit ceux qui restent de classe ouvrière, que ce soit, à mon avis, ici, les décideurs, avec le monde académique très largement et les médias, bien sûr, vivent une Europe qui est virtuelle, qui existe sur le papier, l'Europe du néolibéralisme effréné, quelles que soient les déstructurations sociales que ce néolibéralisme entraîne en Europe, alors que justement, il n'y a aucun regard sérieux sur ces déstructurations, et je pense que si on veut parler des Européens ordinaires, politiquement, ils sont coupés au moins en deux aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez d'un côté, au niveau populaire, une partie de l'opinion populaire qui est très tentée par les démons de l'extrême droite et d'un identitarisme primaire sur le mythe occident, justement, en général. Et puis une gauche qui se cherche, qui est tout à fait en quête d'identité, qui n'a pas de modèle alternatif véritable à proposer à ce néolibéralisme qui, malgré la crise économique. Moi, je suis avec intérêt tous les articles d'opinion d'économistes ou d'hommes politiques. Il s'agit simplement de colmater les brèches, de réparer, de dire oui, il faut un peu plus d'intervention de l'État, mais ça ne va pas plus loin. Il n'y a aucune remise en cause de la société consumériste, de vies qui sont sans horizon, à part le profit, à part l'accumulation de biens, à part le confort matériel. Et l'Europe est en plein travail futur, on voit, ça bouge un peu partout. Qu'est-ce qui va en sortir, là? Vraiment, je n'ai aucune idée. Mais c'est sûr que la crise économique met en plus, encore plus à mal l'Europe, au sens des institutions européennes. Et on a vu d'ailleurs le résultat des dernières élections.
Bien sûr. Alors, je voulais aussi vous poser une question sur... À la lumière de vos analyses, que pensez-vous de l'immixtion ou de l'interférence de l'Occident dans les affaires intérieures des pays du Proche-Orient? On peut penser au Liban, on peut penser à l'Iran, oui. On peut penser à la Syrie et à l'Irak.
Oui, écoutez, dans mon ouvrage, là, un peu le chapitre de conclusion est consacré à montrer, enfin calmement, gentiment, oui. ce que j'appelle la politique de harcèlement. À partir de l'idéologie des droits de l'homme, des régimes ou des pays qui ne sont pas alignés sur les intérêts géopolitiques de l'Occident, sans d'ailleurs que personne ne s'occupe de discuter de ce que sont ces intérêts géopolitiques. Je n'ai jamais vu une discussion dans un Parlement européen un peu intelligente, critique, de c'est quoi nos intérêts géopolitiques. Et que sont les intérêts géopolitiques d'un bloc qui est l'OTAN, qui est un bloc militaire très efficace, qui va de l'extrême nord des États-Unis jusqu'à l'Australie. Le jour où il y aura une discussion dans un Parlement européen là-dessus, là je serai assez content, je me dis les choses auront bougé. Alors je crois que ce harcèlement qui est fait quand un régime politique ne vous plaît pas, alors qu'on se tait sur un autre régime politique qui probablement fait beaucoup plus d'entorse aux droits de l'homme et notamment aux droits de la femme. Je peux penser à l'Arabie Saoudite ou à d'autres régimes. Je crois qu'on décrédibilise complètement l'idée démocratique. Et cette idée démocratique, moi je le rappelle, elle a fait le tour du monde. Elle a provoqué partout des changements sociaux massifs, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. Et c'est en ce sens que je dis même que cette dichotomie Orient-Occident n'a plus de sens, parce que le monde entier est occidentalisé. Le monde entier a fait des républiques, par exemple. Enfin, l'Iran est une république, même si elle s'appelle islamique, alors que c'était une monarchie. La Chine, qui était un des plus vieux empires du monde, est devenue une république. Et tout ça, on le doit évidemment à la philosophie des Lumières, on le doit au modèle républicain français. C'est des choses importantes que l'Europe elle-même a oubliées. Et donc ce harcèlement, finalement, crée des crispations identitaires, tourne à l'avantage des dictateurs qu'on dénonce, parce qu'il crée dans la base populaire des réflexes nationalistes qui font qu'on va soutenir un gouvernement qui est mis au pilori par les États occidentaux, parce qu'on sait très bien que les États occidentaux n'ont dans la tête pas vraiment l'intérêt des populations, mais simplement leurs intérêts géopolitiques. D'ailleurs, chaque fois qu'on a pris des sanctions, ça n'est jamais retombé sur les dictateurs. C'est toujours retombé sur la population, qu'on pense aux sanctions économiques contre l'Irak, qui sont l'équivalent d'un crime contre l'humanité, puisque, au dire de rapports de Nations Unies, il y a eu 500 000 victimes de l'embargo économique total sur l'Irak, qu'on pense aux sanctions contre la Serbie, partout, on l'a vu, aux sanctions contre la Libye, c'est la population pauvre qui souffre. Donc c'est complètement absurde, et finalement... Plutôt que de renforcer les idéaux démocratiques sur lesquels on pourrait s'entendre, on pourrait dialoguer, finalement ça les décrédibilise. Et moi je regrette ça profondément.
Ben, je vous remercie de cette analyse très intéressante. Et puisque nous sommes à l'antenne de l'Union rationaliste, Georges Cormes, vous décririez-vous comme un rationaliste et pourquoi ?
Écoutez, moi je suis intellectuellement un enfant de deux philosophies des Lumières, celle de l'Europe du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, et celle de la Renaissance arabe du XIXe siècle et de la moitié du XXe siècle, qui elle-même s'est aussi inspirée de la philosophie des Lumières. Et je suis rationaliste, et je vais vous surprendre, mais pour une double raison. Je suis rationaliste par souci éthique et je suis rationaliste par souci esthétique.
Alors, il faut nous éclairer ces deux points de vue. Le souci éthique, d'abord.
Le souci éthique, d'abord. Bon, évidemment, je pourrais revenir à Kant, dont je suis un grand lecteur, bien que beaucoup de ses textes soient très ardus. Mais je pense que la vie n'a pas de sens sans une éthique et que la vie internationale n'a pas de sens sans une éthique internationale. La vie dans les sociétés, comme la vie entre sociétés, n'a de sens qu'avec de l'éthique. Et dès qu'on est hors de l'éthique, on est dans ce qui est complètement irrationnel, on est dans
l'insensé.
Des phénomènes de violence, on est dans des émotivités fortes, on est dans des agressivités, on est dans... Bref, c'est un monde qui n'est pas beau à voir, hein, si on abandonne le désir d'éthique. Et l'éthique, elle aussi, est esthétique. La raison esthétique. Alors, moi, je crois que, si vous voulez, cette philosophie allemande à la Nietzsche ou à la Herder ou à d'autres qui a tellement décrédibilisé la raison et le rationalisme, n'est-ce pas, notamment Descartes ou d'autres philosophes comme les philosophes des Lumières, c'est complètement trompé parce que rationalité ne veut pas dire froideur, ne veut pas dire absence d'émotion, ne veut pas dire... Au contraire, c'est avec la rationalité qu'on peut avoir la plus belle des émotivités quand on se trouve en face de situations d'injustice, quand on se trouve en face de situations aberrantes. C'est de l'émotion fraternelle et c'est, au fond, maintenir vivante une croyance qui peut aller même jusqu'à la mystique, hein, dans la part d'humanité qui est en chacun d'entre nous, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau du groupe social auquel on appartient, qu'au niveau du groupe national ou ethnique ou du groupe religieux. Voilà.
Eh bien, je pense que Georges Cormes, c'est sur ces mots que nous pourrons clore notre entretien. Vous avez montré que la raison est sans doute ce que nous avons absolument de commun.
Voilà.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Le mois prochain, je recevrai Roger Teboul pour parler de la psychiatrie en France, la pédopsychiatrie en France. Je remercie Brigitte Mazire qui a rendu possible cette émission.